tout de suite le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le début de la grève mardi prochain à la SNCF. Le PDG de la SNCF conseille aux voyageurs de renoncer à prendre le train dès lundi à partir de 19h. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, présente, elle, le bilan de la concertation sur cette réforme de la SNCF suivie du conflit avec Boris Loumagne. Mouvement de protestation aussi aujourd'hui dans la justice contre le projet de réforme du gouvernement. Le monde judiciaire qui dénonce un projet d'une justice sans avocat, sans juge et sans citoyen. Explication de Florence Turme. Incidents et blocages aussi qui se multiplient au sein des universités qui ont pris de l'ampleur après la violente agression contre des étudiants à Montpellier. La réforme institutionnelle, l'Élysée annonce ce matin un accord trouvé entre messieurs Macron, Rugy et Larcher sur une réduction de 30% du nombre de parlementaires, analyse avec Stéphane Robert. Communiqué ce matin de l'Élysée également qui assure que la France ne prévoit pas de nouvelles opérations militaires dans le nord de la Syrie. Explication de Marie-Pierre Vérot. Et puis des milliers de Palestiniens de la bande de Gaza rassemblés près de la frontière avec Israël en ce moment pour exiger le droit au retour des réfugiés, dénoncer le blocus de Gaza. On retrouvera sur place Marine Vlaovic, l'invité de la séquence interview, Didier Bille, auteur de DRH, la machine à broyer, aux éditions du Cherche Midi, dans la dernière partie de la Grande Table, Olivier Jesbert.
Vivre mieux en retrouvant le sens de nos vies par la santé, loin de tout déterminisme biologique. C'est peut-être ça la promesse de la révolution épigénétique dont nous allons parler avec notre invité, le scientifique et prospectiviste Joël de Ronay, auteur de la Symphonie du vivant au lien qui libère.
Et on commence donc par cette mise en garde du PDG de la SNCF ce matin, Guillaume Pepy, qui avertit les voyageurs du week-end de Pâques. Le premier jour de la grève perlée à la SNCF va donc tomber mardi prochain. Mais selon le PDG, donc à partir de lundi soir, 19h, le mouvement sera sans doute très suivi. Et on ne pourra pas, je cite toujours, dans ces conditions, transporter la totalité des voyageurs qui devraient prendre le train lundi soir. Les conducteurs et les aiguilleurs peuvent se déclarer en fait grévistes jusqu'à samedi 19h. Donc on n'a pas vraiment de visibilité. Ce n'est que dimanche matin que la SNCF va publier la liste des trains qui circuleront donc pour ce lundi soir. Par la suite, une liste de trains en circulation sera publiée chaque jour à 17h la veille pour le lendemain. Voilà pour quelques-uns des détails concrets et nécessaires tout de même. Boris Loumagne, bonjour.
Bonjour.
Comment se présente maintenant ce début de grève ?
Eh bien, ça va être compliqué pour les usagers, on l'a compris. Certains syndicats évoquent un train sur 10 seulement en circulation mardi. Guillaume Pepy évoque l'hypothèse d'un train sur 5 ou un train sur 8. Le PDG de la SNCF qui appelle les usagers à prendre leurs dispositions.
Il y aura très peu de trains qui partent après 19h lundi. Donc réexaminer son voyage, reporter son voyage, prendre un autre mode de transport, rentrer plus tôt. Il faut que chacun réfléchisse, il faut que chacun prenne ses précautions. Mais finalement, ceux qui sont déjà partis pour le week-end de Pâques risquent de voir l'un de leurs trains ne pas circuler.
Mais il y a quand même de bonnes nouvelles, s'est réjoui Guillaume Pepy ce matin sur France Inter. La SNCF met en avant ses solutions alternatives comme les sites de covoiturage gratuits et solidaires. Pas sûr que cela suffise à rendre le sourire aux usagers.
La ministre des Transports, Elisabeth Borne, doit présenter dans la journée le bilan de la concertation sur cette réforme. Pour elle, on le sait, la concertation c'est la seule voie possible, mais la voie n'est pas vraiment dégagée, Boris.
Non, parce que depuis un mois, les syndicats le répètent, c'est à peine une concertation, disent-ils, et ce ne sont surtout pas des négociations. Pour autant, Elisabeth Borne présente donc un bilan aujourd'hui. La ministre l'assure, elle a avancé sur des sujets concrets, notamment sur l'ouverture à la concurrence. Concernant les TGV, de nouvelles compagnies pourraient faire leur apparition dès la fin de l'année 2020. Quant au TER, les régions pourront lancer des appels d'offres dès la fin de l'année prochaine. Les Transiliens, eux, pourraient être ouverts à la concurrence entre 2023 et 2033. Quant à la portabilité des droits, si un salarié est transféré de la SNCF à une autre entreprise, il pourrait garder l'essentiel de ses acquis.
Alors un signe encore de la tension, parce que dans ce conflit, on voit qu'on va plutôt vers la tension que vers l'apaisement, c'est la question du calcul des jours de grève sur la feuille de paye.
Les conditions d'exercice de la grève ne sont pas pas respectée d'après les syndicats qui menacent de saisir l'inspection du travail. Selon la direction, la grève est certes décomposée en 18 séquences de 2 jours, mais c'est une seule et même grève contre une même réforme. Une grève longue donc, et qui autorise la SNCF à ne pas payer les jours de repos entre 2 mouvements de protestation. Les syndicats rappellent eux qu'ils ont déposé plusieurs préavis. Les représentants du personnel qui parlent également des tensions internes qui minent le moral des salariés. Bruno Poncet est secrétaire fédéral Sudrail.
Aujourd'hui, M. Pépi n'en parle pas, mais il faut voir le comportement de certains de ses managers. Ils envoient leurs managers pour casser les grévistes. Ils expliquent au cadre que c'est inadmissible de faire grève. Ils expliquent au cadre qu'il faut remplacer les grévistes. Ils expliquent à mes collègues sur le terrain que s'ils font grève, ils n'ont pas intérêt à être dans les emprises de la SNCF parce qu'ils appelleront la police. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'une fois que ce mouvement sera fini, le retour au travail va être compliqué parce que la direction de l'entreprise fait tout pour monter les cheminots les uns contre les autres.
Et pour ne rien arranger, certains syndicats accusent la SNCF de faire appel à des cheminots anglais pour assurer en France la maintenance des trains Eurostar. Légal, mais immoral, s'insurge la CGT ou encore Sudrail.
Boris Loumaine, merci pour toutes ces précisions. A signalé qu'Olivier Faure, qui a été officiellement élu premier secrétaire du Parti Socialiste hier, affirme ce matin sur France Info qu'il soutient ces grévistes de la SNCF et il demande au gouvernement d'arrêter, je cite, de mettre un pistolet sur la tempe de tout le monde. Nouvelle journée de grève aussi à Air France pour de meilleurs salaires, un 3e arrêt de travail en plus, donc en plus d'un mois maintenant, la direction prévoit d'assurer 80% des vols long courrier à Orly, 70% au départ de Roissy. Mouvement de protestation encore dans la justice à l'appel des organisations syndicales avec renvoi des audiences, rassemblement devant les juridictions pour protester contre là aussi un projet de réforme du gouvernement. L'ensemble du monde judiciaire dénonce une privatisation de la justice sous couvert de déjudiciarisation, un projet d'une justice, disent-ils, Florence Turme, sans avocat, sans juge, sans citoyen.
Oui, on peut parler d'abord d'un mouvement assez inédit avec une entente syndicale interprofessionnelle peu courante puisque magistrats, greffiers et avocats ont engagé une mobilisation commune contre le projet de loi présenté par la garde des Sceaux Nicole Belloubet le 9 mars dernier. Les différentes organisations auxquelles s'est associé le Conseil national des barreaux déplorent une mort sur ordonnance. Elles ont rédigé d'ailleurs un faire-part de décès et plusieurs actions symboliques se déroulent ce matin dans toute la France comme à Alès où un corbillard porté par des magistrats et des avocats déambule dans les rues de la ville. Les acteurs du monde judiciaire protestent depuis des années contre le manque de moyens criants de l'institution. Aujourd'hui, ils dénoncent une concertation de façade, mais surtout une privatisation. Le projet de loi prévoit par exemple une conciliation obligatoire avant de saisir un tribunal de grande instance. Cette médiation pourrait être assurée par des services privés de résolution de litiges. Procédure dématérialisée et donc déshumanisée selon les signataires. Elles ne feront selon eux qu'éloigner davantage les usagers d'une justice déjà très critiqué pour ses lenteurs. Plus de 300 tribunaux d'instance vont par ailleurs être rattachés aux tribunaux de grande instance et les justiciables vont ainsi perdre la proximité de ces juridictions, déploré déjà la semaine dernière le bâtonnier de Nanterre en dénonçant par ailleurs un recul des droits de la défense. De nombreuses audiences devraient être renvoyées aujourd'hui partout en France et les professionnels de la justice n'entendent pas s'arrêter là. Ils refuseront désormais ce qu'ils appellent tous les petits compromis quotidiens qui permettent de maintenir le navire à flot et prévoit d'ores et déjà une 2e journée justice morte avec un grand rassemblement national à Paris le 11 avril prochain.
Florence Turme, merci. Les incidents, les blocages se multiplient au sein des universités. Ils ont pris de l'ampleur après la violente agression contre des étudiants à Montpellier. Situation en constante évolution, déclare le secrétaire général du SGEN CFDT, la première organisation du personnel de l'enseignement supérieur. À Toulouse, il y a des sites de l'université Jean Jaurès qui sont bloqués depuis maintenant plusieurs semaines. La faculté de lettres de Nancy est également touchée. Même chose pour l'université Paul-Valéry de Montpellier à Rouen, mais aussi à Paris, par exemple, le site de Tolbiac, l'université Panthéon-Sorbonne, fermé depuis lundi. Et le président de l'établissement, Georges Haddad, dit craindre que la situation ne dégénère. Il disait son inquiétude ce matin au micro de France Culture.
Eh bien, c'est un peu la théorie mathématique dans laquelle j'ai travaillé. Nous allons atteindre très bientôt les frontières de viabilité du système. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra décider, est-ce qu'on peut revenir vers quelque chose de plus sain, de plus équilibré, ou bien est-ce qu'il va y avoir une explosion ? Puisque nous prenons sur les masses salariales, nous avons des travaux dirigés, vous savez, les encadrements des cours magistraux qui sont surchargés, j'ai moi-même enseigné en travaux dirigés, vous avez dans des salles qui doivent contenir 50 étudiants, plus de 60 étudiants en travaux dirigés. Comment voulez-vous que la qualité de l'enseignement se fasse lorsque les salles sont surchargées. Les amphithéâtres aussi sont bondés. Alors, certains disent, et les responsables, mais au bout de 2 ou 3 semaines, il y a une évaporation des étudiants. On dit même que certains enseignants finissent l'année plus nombreux que leurs étudiants, parce qu'il n'y a plus personne. Mais ce n'est pas une solution. C'est l'argent public qui est gaspillé.
Et la recherche ?
La recherche, c'est là aussi un des parents pauvres de cette situation, parce que nous n'avons pas les moyens de financer honnêtement et sincèrement des recherches innovantes, des recherches du futur. Et on met les universités en compétition. Vous le savez, aujourd'hui, il y a des plans IDEX, LABEX, etc., qui mettent les universités en compétition. C'est de l'énergie, c'est du temps et c'est des déséquilibres flagrants.
Voilà, Georges Haddad donc avec Guillaume Herner ce matin sur France Culture. Édouard Philippe, le Premier ministre, va présenter en milieu de semaine prochaine des textes pour la réforme des institutions qui a été promise par le chef de l'État. Il y a 3 textes en fait qui prévoient le non-cumul des mandats dans le temps, la réduction du nombre de parlementaires et l'introduction d'une dose de proportionnelle pour les élections législatives. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Alors sur le 2e point, c'est-à-dire la réduction du nombre de parlementaires, on a eu des précisions ce matin puisque l'Élysée annonce qu'un accord a été trouvé entre messieurs Macron-Rugy et Larcher sur une réduction de 30%.
Oui, 30% de parlementaires en moins, il n'y a là rien de nouveau, c'est ce qui était prévu, envisagé, annoncé depuis des mois. Et c'est donc une confirmation. Concrètement, ça va se traduire par une diminution du nombre de députés à l'Assemblée de 577 aujourd'hui à 400 environ. Et au Palais du Luxembourg, on passera de 348 sénateurs à environ 240. Plusieurs raisons sont avancées pour justifier cette réduction. D'abord, mettre fin à l'inflation législative. On produit de plus en plus de lois en France, sans vraiment se préoccuper de la manière dont elles sont appliquées et sans non plus vérifier qu'elles règlent le problème auquel elles sont censées répondre. Avec moins de députés et moins de sénateurs, on votera donc moins de lois. En tout cas, c'est un des arguments avancés. Deuxièmement, l'Assemblée et le Sénat ne permettent pas à tous les députés et sénateurs d'exister pleinement en tant que parlementaires. Ils sont plusieurs centaines, notamment sur les bancs de l'Assemblée, à s'ennuyer ferme. Cette réforme se veut aussi une réponse à cette problématique. Et puis il y a bien sûr le fait que, dans le cadre d'une défiance croissante envers un personnel politique qui s'est professionnalisé au fil des décennies, cette mesure est populaire. Dans ce contexte-là, Emmanuel Macron a beau jeu de faire valoir qu'il fait ce qu'il a dit en même temps qu'il répond à une aspiration des Français. Alors bien sûr, il va y avoir des conséquences dont on verra seulement plus tard si elles sont bénéfiques ou néfastes pour la vie politique française. La droite notamment fait valoir le fait que moins de parlementaires, ça veut dire des circonscriptions plus grandes, soit qu'on va les fusionner, soit qu'on va les redessiner. Et en faisant cela, on va partiellement détruire le lien entre ces élus et les territoires, ce qui ne va peut-être pas arranger la relation entre les Français et leur personnel politique. Et puis autre conséquence, comme l'élection de ces parlementaires dépendra moins du fait qu'ils sont connus et implantés que de leur couleur politique, le risque, c'est qu'ils répondront plus de leur mandat devant leur parti que devant les Français, et donc qu'ils seront des élus encore plus godillots qu'ils ne le sont aujourd'hui. Dès lors, est-ce qu'on ne va pas amoindrir le rôle de l'Assemblée et du Sénat dans l'élaboration de la loi ? C'est une question. Et puis il y a tout un tas d'autres questions qui se posent sur les autres dispositions de cette réforme, et ça, vous l'avez dit, on le verra ça la semaine prochaine, puisque c'est en milieu de semaine prochaine que le Premier ministre nous dévoilera ce qui a été décidé dans son ensemble.
Voilà, donc rendez-vous effectivement à ce moment-là. Merci beaucoup Stéphane Robert. Curieux communiqué ce matin de l'Élysée à propos de la guerre en Syrie. La présidence affirme que la France ne prévoit pas de nouvelles opérations militaires dans le nord de la Syrie, en dehors de la coalition internationale contre le groupe État islamique. C'est une précision qui est donnée au lendemain de déclarations de responsables kurdes qui étaient reçus à l'Élysée hier et qui avaient indiqué à leur sortie que Paris allait effectivement envoyer de nouvelles troupes dans le nord du pays. Donc c'est un démenti. De son côté, la Turquie déclare rejeter toute médiation française en vue d'un dialogue entre Ankara et une force arabo-kurde syrienne. Le président Erdogan se dit même ce matin peiné par la position, dit-il, erronée de la France. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Antoine.
Expliquez-nous un peu les ressorts, les contours de cette mini-crise entre Paris et Ankara.
Eh bien, tout est venu effectivement de cet entretien hier à l'Élysée entre le président Macron et une délégation des forces démocratiques syriennes, cette alliance militaire arabo-kurde qui lutte contre Daesh avec l'appui de la coalition internationale. Les succès contre l'EI ont permis à ses troupes de prendre place dans une large frange du nord-ouest syrien, une présence kurde jamais acceptée par la Turquie, surtout celle de la milice YPG qu'Ankara accuse d'être liée au PKK, ce mouvement séparatiste kurde. D'où l'offensive qu'a lancée l'armée turque contre l'enclave d'Afrin en début d'année afin d'en chasser les combattants kurdes. Recep Tayyip Erdogan entend à présent poursuivre plus à l'est vers Manbij et si besoin jusqu'en Irak, dit-il. Or, à Manbij, à la différence d'Afrin, sont stationnées des troupes de la coalition. C'est dans ce contexte très tendue qu'Emmanuel Macron a donc reçu la délégation des forces démocratiques syriennes. Il l'a assuré du soutien de la France, en particulier, je cite le communiqué, pour la stabilisation de la zone de sécurité au nord-est de la Syrie. Mais pas de précision de l'Elysée sur la nature de ce soutien. Des responsables kurdes, eux, ont dès hier soir expliqué que Paris leur avait en fait promis l'envoi de nouvelles troupes sur le terrain. C'est comme un chiffon rouge agité sous le nez de la Turquie, d'où ce démenti un peu alambiqué de l'Elysée ce matin. Pas de nouvelle opération militaire en dehors du cadre de la coalition. Mais pas de quoi apaiser le président turc. Il fustige l'offre de médiation française formulée elle aussi hier par le président français pour un dialogue entre les forces démocratiques syriennes et la Turquie. Qui êtes-vous, tonne Tayyip Erdogan, pour parler de médiation entre la Turquie et une organisation terroriste? Ceux qui dorment et se lèvent avec les terroristes, ceux qui les reçoivent dans leur palais, comprendront tôt ou tard leur erreur. Avant de dire, espérer que Paris ne sollicitera pas son aide le jour où des terroristes se répandront en France. On le voit dans un contexte de telle hostilité du pouvoir turc envers les milices kurdes. Difficile de tenir une ligne médiane, soutien à l'intégrité de la Turquie et en même temps aux forces démocratiques syriennes.
Merci beaucoup. Marie-Pierre Véraud, on apprend par ailleurs que dans le sud du pays, l'armée russe annonce un accord conclu avec les groupes armés à Douma pour leur sortie de cette ville de la Ghouta orientale qui est la cible en ce moment d'une vaste offensive du régime de Bachar el-Assad qui semble donc maintenant quasiment achevé. Des milliers de Palestiniens de la bande de Gaza rassemblés près de la frontière avec Israël aujourd'hui. Ils exigent le droit au retour des réfugiés palestiniens. Ils dénoncent aussi un strict blocus de Gaza. Un mouvement de protestation qui doit durer plusieurs semaines et les dirigeants militaires et politiques israéliens ont prévenu que l'armée n'hésiterait pas à donner l'ordre d'ouvrir le feu à des tireurs d'élite qui ont été postés près de cette frontière en cas de tentative d'infiltration. On est sur place avec Marine Blahovic. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quel est le climat actuellement?
Eh bien, écoutez, un climat très tendu depuis ce matin et malgré les consignes, eh bien, des milliers de Palestiniens se sont rassemblés pour cette marche du retour aux abords de la frontière avec Israël, mais pas à 700 mètres de la ligne de séparation comme prévu, mais bien à seulement parfois quelques dizaines de mètres en face de l'armée israélienne et des tireurs d'élite postés sur des monticules qui n'ont pas hésité à tirer, comme l'avait prévenu l'état-major de l'armée israélienne, faisant au moins deux morts pour le moment dans l'enclave palestinienne et des dizaines de blessés. Ici à Shabadia, eh bien, la prière, la grande prière du vendredi vient de se terminer et la foule eh bien, repart vers cette barrière, cette ligne de séparation avec Israël. Une foule pacifique, mais déterminée, car les manifestants, dit-il, eh bien, veulent appuyer leur droit au retour en tant que réfugiés, 66% en haut de la...
Marine Blahovic, excusez-moi, je crois qu'on vous entend quand même très difficilement là pour l'instant avec un téléphone en direct. Vous êtes évidemment sur place. Je pense qu'on vous retrouvera dans nos prochaines éditions. Merci en tout cas d'avoir été en ligne avec nous. On dit un mot de Donald Trump qui a publiquement critiqué Amazon hier. J'ai exposé mes motifs d'inquiétude concernant Amazon avant mon élection, a-t-il dit dans un tweet. À la différence des autres, il paie peu d'impôts aux États-Unis et les collectivités locales, eh bien, ils les utilisent. Ils utilisent notre système postal. Ils poussent des milliers de personnes, de commerçants à la faillite. C'est ce qu'il écrit donc, c'est ce qu'écrit le président américain. Et puis, la valeur boursière du groupe a immédiatement fondu de près de 60 milliards de dollars en à peine 24 heures. Joël de René, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'invité de la dernière partie de la grande table. Un tout petit mot là-dessus peut-être, parce que là on voit un enjeu d'avenir intéressant entre d'une part un grand groupe, le plus riche, l'homme le plus riche du monde, contre l'homme peut-être le plus puissant du monde, j'ai nommé le PDG d'Amazon, contre le président américain. Qu'est-ce qui se joue dans cette bataille entre une grande entreprise?
Ce qui est clair, c'est qu'il faut limiter le pouvoir des GAFA, dont Amazon, et son énorme pouvoir. Ce que je critique énormément dans l'attitude de Trump, c'est qu'il se paye en quelque sorte, par un tweet très court, Jeff Bezos. Moi, j'aurais préféré un débat démocratique, j'aurais préféré la libre concurrence qu'un seul tweet. C'est un abus de pouvoir, pour moi. Alors, c'est vrai que ces entreprises sont devenues des entreprises État. Si nous, nous sommes des États-nations, elles sont des entreprises-États. Elles
alors
ont
qui
le
va
budget,
l'emporter c'est ça la question.
L'équivalent à la capitalisation boursière du budget de certains États. Donc c'est sûr qu'il faut limiter leur pouvoir, mais pas sur cette forme-là. Cette forme-là, je considère que c'est un abus de pouvoir de Trump, c'est un média-virus, et nous contribuons à sa contagion.
Merci beaucoup, Joël de René. On vous retrouve donc pour votre livre « La symphonie du vivant, comment l'épigénétique va changer notre vie », publié au Lien qui libère dans la dernière partie de La Grande Table. Et nous passons tout de suite donc à la séquence interview avec notre invité Didier Bille. Bonjour.
Bonjour.
Auteur de DRH, La machine à broyer, c'est publié aux éditions du Cherche Midi. Anne Lorchois, vous avez lu pour nous ce livre.
Oui, bonjour Didier Bille. Bonjour. Alors, vous avez été militaire en Belgique, votre pays d'origine, et puis fin des années 90, vous changez de direction, vous venez travailler en France dans les RH de plusieurs grands groupes à des postes de direction, depuis lesquels vous avez licencié beaucoup de monde. Les grands groupes en question, General Electric, Nortel ou NXP, qui peuvent se permettre évidemment d'avoir des services RH, au contraire de petites entreprises. Dans ces grands groupes, on ne s'embarrasse pas toujours ni de la légalité, ni de la psychologie, ni même de la simple humanité pour mettre les salariés dehors. Alors vous décrivez dans ce livre, vous décortiquez la façon dont ces groupes qui estiment qu'il n'y a pas de problème qui puisse être réglé en licenciant, qui ne puisse être réglé en licenciant, vous décortiquez la façon cynique et brutale dont ils se débarrassent d'employés parfois irréprochable, en inventant des causes aux besoins. Et puis un jour, vous décidez de raconter tout cela, après avoir été vous-même condamné et licencié pour divers motifs. Alors, première question qu'on a envie de vous poser après avoir lu ce livre, qu'est-ce qui explique dans ces groupes, en tout cas, cette espèce de culture RH du licenciement? Est-ce que c'est une question de formation ou est-ce que c'est une question d'adéquation complète à une certaine vision de l'économie de ces directeurs?
C'est plutôt la seconde option. Les ressources humaines, lorsqu'elles sont passées du stade département du personnel à ressources humaines, ont également eu l'obligation de se transformer d'un centre de coût à un centre de profit. Elles ont été mises devant l'obligation de montrer qu'elles avaient une plus-value pour le business. Et donc, elles se sont rapprochées du business. Ce faisant, à terme, elles renonçaient à ce qui était plusieurs de leurs fonctions, d'une part être un trait d'union entre les salariés et l'entreprise et la direction, mais également être un contre-pouvoir par rapport à la direction. Et donc, le verre était dans le fruit. Elles se sont de plus en plus écartées de cela, de plus en plus elles ont conçu leur rôle comme étant là pour supporter le business, sachant que les différentes doctrines, les différentes modes managériels viennent plutôt des États-Unis, donc encore plus orientés business, avec en plus, il ne faut jamais l'oublier, aux États-Unis, le CDI n'existe pas. Le salarié, qu'il ait 2 jours, 2 ans, 20 ans d'ancienneté, peut être licencié du jour au lendemain sans aucun motif. Ce qui explique qu'aujourd'hui, effectivement, en France, mais dans d'autres pays également, on est des entreprises avec des ressources humaines qui est, d'une part, je vais le dire un peu crûment, mais la gâchette facile, et qui, dans tous les cas, préfère recourir à un licenciement pour motif personnel, c'est-à-dire faute ou insuffisance de résultats, plutôt qu'à des licenciements économiques. Et cette voie continue et s'accentue chaque année.
Alors ce qui ressort aussi et qui est assez brutal, c'est toute la question de l'utilité du salarié, dont les RH et autres dirigeants estiment que forcément à un moment donné dans l'entreprise, l'employé devient inutile. C'est une charge et c'est pas une ressource.
Ah, la masse salariale est effectivement une charge, mais c'est une ressource. Mais il faut le concevoir dans le terme ressource, dans son versant le plus cru. C'est-à-dire que c'est une ressource, donc c'est un coût. Ben, si on peut réduire cette ressource, on la réduit.
Mais même un salarié performant devient un poids à un moment donné.
Ben, un salarié performant, il y a bien entendu des choses que l'on peut mesurer en entreprise, mais il y a aussi énormément de choses que l'on ne peut pas mesurer. Et il y a la majorité des salariés qui sont dans des fonctions où mesurer leur performance est très très difficile. Donc parler d'un salarié performant, quand on parle de quelqu'un d'autre qu'un commercial par exemple, on est rapidement dans du subjectif.
Alors là, vous parlez effectivement de la profitabilité qui a été mise devant tout. Mmh. Est-ce que ça ne nuit pas malgré tout aux entreprises, la manière dont on peut traiter comme ça les salariés?
Malheureusement, les entreprises n'ont pas à supporter le coût de ce mode de gestion. C'est le Pôle emploi qui va le gérer. Quand les salariés, malheureusement, sont brisés, ça va être la Sécurité sociale. Donc déjà, quand vous ne supportez pas le coût de vos erreurs, ces erreurs deviennent moins des erreurs. Ensuite, je pense que c'est une question de point de vue. Est-ce que l'on veut travailler dans une entreprise? Est-ce que l'on veut vivre dans une société où l'être humain est considéré comme une ressource? Ou est-ce que l'être humain est considéré comme un être humain qui doit effectivement évoluer, qui a des besoins, qui doit être respecté?
Dernière question.
Vous dites aussi que vous vous êtes aperçu d'un total manque de solidarité entre employés au moment où advient le licenciement. Vous pensez toujours ça? C'est-à-dire que il y a un lien qui existait peut-être avant, qui n'existe plus. Il y a plus de rébellion, il y a plus de prise de conscience au sein de l'entreprise.
Je n'ai jamais vu un salarié se lever pour un autre. Et aujourd'hui, je suis des salariés qui sont dans des périodes charnières, c'est-à-dire qui sont entre le moment où ils ont reçu leur convocation et la lettre de licenciement. Et l'une des choses qu'ils me disent tous, c'est aucune solidarité. Du jour où j'ai été convoqué aux ressources humaines, je suis devenu un pestiféré.
Voilà, bon, on revoit votre livre. Effectivement, c'est pas très gai ce que vous nous racontez là, mais peut-être que vous avez des solutions.
Ah non, non, pas encore.
Pas encore. C'est pour le
prochain. Je voudrais, mais pas encore.
Alors, La machine à broyer, DRH, La machine à broyer, aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'être venu dans ce studio. Tout petit mot pour vous annoncer une disparition. Aujourd'hui, l'acteur Christophe Salengro, interprète du fameux président de la Présipauté de Groland, l'émission satirique de Canal+, eh bien, est mort ce matin à l'âge de 64 ans. On écoute juste rapidement ses vœux de 2016.
Grolandaise, Grolandais, en cette nouvelle année 2016, je fais vœu de créer un nouvel État pour concurrencer l'État islamique. Et cet État, je le baptise l'État alcoolique. Réunissons-nous pour former un immense ensemble d'un milliard de fidèles de la bouteille. Notre djihad sera l'ivresse. Et si les islamistes veulent reprendre la Mecque, nous reprendrons bien Bordeaux.
Christophe Salengro, qui est mort donc à l'âge de 64 ans, journée encore perturbée du point de vue de la météo, avec des pluies fréquentes, des températures de 10 à 20 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, 17h, un magazine consacré à l'école, l'égalité entre les sexes, cours d'égalité à la récré. Reportage Sarah Petitbon, réalisation Annie Brault, présentation Aurélie Kiffer. 18h, c'est Camille Magnard pour le prochain journal.